Lilliput, venez chez moi, y'a papa. Et Lilliput, y'a papa, y'a papa. Il est parti, ça va être la Mouse Bing Bang Party.
On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
Émission spéciale. La causerie. On n'est pas des cadeaux. Présente. La causerie des cadeaux. La causerie des cadeaux, c'est aujourd'hui. Émission spéciale, la marche de fierté. Let's get proud. Bonjour.
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 Donc bienvenue pour cette émission spéciale, donc une émission entre la causerie et on n'est pas des cadeaux. Et aujourd'hui, on va parler de la lesbienne and gay pride, de la marche des fiertés. Oui. Et dans les studios, il y a Edwige qui est présidente de la LGP depuis 2012.
C'est ça, tout à fait. Donc 2 ans maintenant, et ça va, ça se passe bien.
Donc bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et donc, pourquoi on a choisi de faire cette émission, c'est que le 14 juin, ça sera la marche, et dans pas si longtemps. Donc on avait envie de t'inviter, et on avait aussi envie de parler, notamment dans cette émission, du mot d'ordre de cette année, qui est « Droits des trans, PMA, IVG, GPA, prostitution, nos corps, nos choix », un slogan très féministe. C'est appréciable, hein, c'est
presque
des années comme ça. Et voilà, et puis dans un premier temps, on avait surtout envie que tu commences pour expliquer un peu c'est quoi le fonctionnement de la LGP, parce que je pense qu'on est plein à pas trop comprendre, pas trop savoir. On sait que c'est un regroupement d'associations, mais...
Oui, comment que ça marche tout ça? Déjà, dans un premier temps, je vous remercie aussi de nous accueillir, et de m'accueillir, parce que je suis un peu toute seule. Mais voilà, déjà merci dans un premier temps. Et puis pour répondre à ta question, en fait, la Lesbian and Gay Pride de Lyon est une structure interassociative. Donc ça veut dire qu'on a à l'intérieur de notre association des associations membres, comme par exemple AIDS, KS ou encore HES, MOUV, Rimbaud, enfin voilà, plusieurs structures qui sont adhérentes et qui sont pour nous des personnes dites morales. Et on a aussi des administrateurs, donc des personnes physiques. C'est le cas pour toutes les personnes qui sont membres du bureau. Donc moi, je suis clairement affiliée LGP et que LGP, puisque j'en suis présidente, donc je représente physiquement la structure. Et on a d'autres personnes qui sont aussi administratrices. Je pense notamment à la coprésidente d'Aris, qui à la fois représente Aris en tant que structure, donc personne morale, mais est aussi une de nos administratrices. Enfin, voilà, on a un fonctionnement multiple, à la fois des personnes physiques et à la fois des personnes morales. Et on a l'écoute à l'intérieur, lors des interventions de chacun, l'écoute des problématiques liées à chacune des structures. Donc quand on aborde un sujet, il y a quand même un débat qui est fait en interne, des questions qui sont posées. Chaque structure nous apporte sa réponse, sa vision, son orientation. Parfois même, il y a des sujets sur lesquels ils n'ont pas vraiment statué, que ce soit au niveau local, si c'est une asso locale ou si c'est national. Et en revanche, pour certaines questions, là, les structures vont estimer que la Lesbian and Gay Pride de Lyon, en tant que Lesbian and Gay Pride de Lyon, peut porter certaines thématiques, même si eux ne se sont pas positionnés, clairement. Mais ils estiment que la LGP peut le faire, par contre, et donne voix à la LGP pour porter des thématiques.
Mais est-ce que, par exemple, il y a des syndicats ou des partis politiques ?
On a aussi, oui, des syndicats, puisqu'on a la CFDT qui est présente. On avait pendant un certain temps aussi l'Union CGT. On a le regroupement Ensemble qui est rattaché au Front de Gauche qui aussi est présent. Voilà, il peut y en avoir, ils peuvent être présents, mais après, il y a un vote. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un vote. Donc, c'est pas forcément un parti politique qui va décider, c'est pas un syndicat qui va décider, c'est pas une association LGBT ou une association de défense de la famille qui va décider, c'est tout un ensemble de structures, et bah, c'est le vote qui sera souverain, c'est-à-dire que si démocratiquement il y a 18 voix contre 2, bah, c'est voté.
Donc ouais. C'est des votes à la majorité.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et une des questions que, en tout cas, on se pose pas mal, c'est les réseaux LGBT, ils sont quand même à majorité gays. Et donc, quelle place un peu dans cette représentativité dans la LGP pour les gouines, les lesbiennes, les trans, les féminines.
Alors déjà, moi je suis gouine comme un camion, donc ça tombe très bien, la présidente de la LGP déjà se présente bien, c'est la première chose. Ensuite, on a quand même au niveau de nos administratrices plusieurs femmes qui sont présentes et qui sont bi ou lesbiennes, donc voilà, on a quand même des femmes qui sont présentes et qui sont... rattaché entre guillemets à la communauté, si on veut vraiment appeler ça communauté, même si moi j'aime pas trop ce terme parce que bon voilà, on n'est pas communautariste non plus. Et après on a aussi des personnes qui sont hétéros et qui nous accompagnent. Moi là je déplore par contre effectivement une absence de personnes, soit à titre personnel, individuel, soit peut-être à titre de structure, et je déplore qu'on n'ait pas de personnes par contre trans ou intersexes. Et voilà, si jamais effectivement on pouvait réussir à raccrocher des wagons de ce côté-ci, moi ça m'intéresserait vraiment énormément, puisque ça apporte beaucoup. Et moi je suis très favorable à une diversité qui rendrait encore plus, plus profond le militant et le militantisme, en tout cas de la LGP.
Voilà. Donc ça a bougé au fur et à mesure des années, c'est moins gay. Surprésent quoi.
C'est vrai que moi je suis arrivée en 2010, j'étais un petit peu minoritaire, mais bon, il y a un petit peu plus de monde aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que le militantisme a évolué ? Est-ce que c'était autre chose qui jouait ? Je ne sais pas. Il y avait soi-disant une vision sexiste à l'intérieur de la LGP. Moi, j'ai toujours été parfaitement bien intégrée et on m'a jamais ramené ma condition de femme à la gueule, donc je sais pas. Je peux pas t'expliquer ce qui a pu se passer par le passé, puisque moi j'ai pas vécu ce sexisme-là. Donc je peux pas. J'entends par contre que peut-être certaines aient eu la sensation de le vivre. Probable. J'étais pas là. Mais moi en tout cas je l'ai pas vécu. Donc voilà. Donc, je sais pas ce qui s'est passé pendant un certain temps. Est-ce qu'il y a eu une volonté aussi peut-être de se retrouver seulement entre femmes à un moment, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y avait un problème de sexisme ? Je peux pas expliquer le passé. Moi, je vois le présent, est-ce que je vis depuis 4 ans, et je le vis pas, quoi. J'ai pas eu de problème de sexisme où on m'a pas ramené à la figure ma condition de simple femme.
D'accord. Vous voulez rebondir ou on passe aux prochaines questions ?
Bah, sur la place aussi, ce qu'on disait, sur la place des lesbiennes et des féministes.
Oui.
On en parlait un petit peu avant. Il y a eu notamment un moment à LGP au LF, au Zed Féminisme.
Oui.
Qui est parti.
Oui.
Est-ce que tu veux me dire un peu
ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que donc au Zed Féminisme est à proprement parler une structure féministe. Donc elle porte surtout des questions autour de la condition de la femme. Solidaire des luttes LGBT, ça je ne l'enlève pas. Après, ça a été comme si en novembre dernier, OLF découvrait qu'on avait une position sur la prostitution qui n'était pas la leur. J'ai été un peu espantée, un peu surprise de voir ça. On a porté depuis 2007-2008 notre positionnement sur la question de la pénalisation et particulièrement de la répression. Donc d'abord ça avait été le racolage passif, maintenant c'est l'inversion de la charge des peines. On a toujours eu une posture qui était certes pas la leur. Et on a eu la sensation qu'en novembre, déjà, OLF découvrait quelque chose, qu'on n'allait pas dans leur sens, ou j'en sais rien. Bon, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, moi, ce qui m'a un peu gênée, ce n'est pas à la rigueur que OLF décide de partir parce que pour eux ou pour elles, parce qu'il y a quand même des hommes aussi qui militent chez eux, chez elles, je ne sais pas trop comment dire, là-bas en tout cas. Donc je pense qu'à un moment il y a eu une volonté de s'en aller parce qu'ils ont voulu, OLF n'a pas voulu être assimilé à notre lutte par rapport à la prostitution, ce que je peux entendre. Le fond, je le conçois, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même mesure, je peux concevoir ça. En revanche, la méthode de départ, elle, nous a un peu déplu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, ça a été plutôt sous couvert. Enfin, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a rien eu. Nous, on a appris lors des missions par un communiqué de presse, sans jamais avoir un appel, sans jamais avoir un SMS, ni même un mail, des signaux de fumée, un pigeon voyageur, des choses du genre. Du coup, j'aurais bien apprécié, au moins, qu'on en discute, sans les empêcher de faire un communiqué de presse expliquant leur départ. Donc, un communiqué de presse pour dire son départ et puis pour nous accuser de choses fausses. J'ai pas forcément apprécié. La LGPN non plus n'a pas forcément apprécié. Et voilà, sur l'instant, on n'a pas réagi. En novembre, on a laissé dire, puisque d'autres structures sont montées au créneau pour répondre à OLF à ce moment-là, pour dire que c'était un petit peu injuste ce qui avait été fait. Et voilà. Et puis, nous, on a laissé couler. Mais on se rend compte qu'en réalité, la méthode ne nous convient pas. C'est pas serein, c'est pas sain, c'est pas une ouverture au dialogue, c'est une attaque frontale en permanence. Une nouvelle attaque serait en préparation de leur part, nous les attendons de pied ferme.
Mais par rapport à la LGP, il y a d'autres assos, organisations féministes qui font partie de la LGP et qui ont pu aussi un peu répondre sur le terrain du féminisme.
Mm-hmm. Oui, par exemple, on avait le planning familial qui restait un bon moment au conseil d'administration. Après, il y a des périodes où certaines structures se retirent un temps parce qu'elles doivent se recentrer aussi sur leur propre fonctionnement. En ce moment, le planning familial a aussi pas mal de boulot, donc du coup, elles se sont un peu recentrées sur leur travail. Mais en tout cas, le planning familial, il a été présent et pas forcément en accord aussi avec OLF. Et c'est vrai qu'on est sur la même posture, la même direction. Donc voilà quoi.
Moi j'ai une question, alors elle n'est pas provoque pour être provoque, c'est parce que c'est ce que le communiqué de presse d'OLF a un peu entraîné sur notamment les réseaux sociaux et tout ça. Il y a des gens qui se demandent quelle est la légitimité finalement de la LGP de se positionner sur la prostitution.
Trois choses. La première, c'est que depuis déjà des années, on est, concerné par tout ce qui va toucher la santé, donc la partie VIH, IST, puisque la communauté LGBT est quand même particulièrement impactée par ces thématiques-là. Du coup, sachant, en ayant eu des rapports par AIDS, par Cabiria, Prost Boys et ainsi de suite, tous les risques sanitaires par rapport à la question de mettre dans la clandestinité les personnes en situation de prostitution, il y a les risques sanitaires face aux IST et VIH, et nous, quand on lutte contre les IST ou contre le VIH ou quand on fait en sorte d'avoir des campagnes de sensibilisation, on pense pas qu'à nous, on pense global, ça touche tout le monde. Et si on est inscrit dans cette lutte-là, on pense à tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous vient, c'est que nous avons au sein de la communauté LGBTQI énormément de personnes qui sont en situation de prostitution. Donc on n'oublie pas aussi les nôtres qui sont dans cette situation-là et certains et certaines d'entre nous qui sont aussi peut-être victimes et coincées par des réseaux proxénètes et par des traites. Donc on pense à eux et on veut leur renvoyer un appel en leur disant on ne vous a pas oublié, on est bien là à côté de vous. Et puis la troisième chose, c'est qu'on est là, nous, pour défendre les libertés fondamentales humaines. Et c'est un humain. Donc à partir du moment où il y a discrimination, on est là.
Ben voilà, ça va éclairer un peu tous ces gens qui se posaient la question.
Voilà.
Et puis aussi, cette année, quand même, il y a la loi qui est en train de passer.
Oui.
La loi sur la
pénalisation des clients.
Oui, pénalisation des clients. Et donc, il y a un vrai enjeu de l'écrire en termes de slogan, quoi.
Tout à fait.
De faire apparaître.
Mais en plus, nous, on est carrément inscrits dans le mouvement du collectif Droit et Prostitution. On va dans le même sens que la Ligue des Droits de l'Homme, que le planning familial, comme je disais. On va dans le même sens aussi que l'ONU SIDA, que OMS Santé sur ces questions-là. On va dans le même sens, finalement, que le rapport qui est sorti récemment, là, le 22 mai, du Conseil national consultatif des droits de l'homme qui pense aussi que c'est pas une bonne idée. Enfin, y en a plein. On est très nombreux à ne pas être d'accord avec cette vision-là. Après, nous, ce qu'on veut faire comprendre, c'est qu'on n'est pas, et encore une fois, je le répète, on n'est pas proxénète et pour les réseaux. On n'est pas non plus traite des blanches ou traite des personnes, mais on n'est pas non plus pour ces réseaux-là. On se dit qu'il y a d'autres moyens peut-être d'affaiblir ces réseaux que l'abolition ou la prohibition. Et puis, si on regarde l'histoire, a donné raison à ce qu'on est en train de faire. Hier, à très juste titre, Camille, qui est une de nos administratrices et qui est coprésidente d'Aris, m'a dit « Les gens oublient que quand on a voulu abolir quelque chose ou le prohiber, on n'a fait que renforcer des réseaux souterrains, on n'a fait que renforcer des réseaux existants, leur donner plus de poids et surtout plus de poids sur les personnes qui en étaient victimes. » Et en fait, il suffit de regarder dans l'histoire, à chaque fois qu'on a voulu le faire, voilà ce que ça a donné. Ben, il faudrait simplement qu'on se rappelle de ça et qu'on essaye de faire autrement. Et j'ai trouvé que son argument était très juste.
C'est l'occasion de rappeler que la loi n'est toujours pas promulguée.
Non.
Donc même si vous avez des gentils messieurs avec un brassard orange qui viennent vous voir en disant que la loi existe, c'est pas vrai. Donc voilà, non, parce qu'en ce moment, il y a une grosse ambiguïté autour de tout ça et les prostituées se retrouvent doublement impactées du coup, l'ancienne loi, la nouvelle qui est à venir. Et voilà, donc c'était juste histoire de rappeler qu'elle n'est pas promulguée quoi.
Voilà.
Elle n'est pas adoptée au Sénat, elle est en discussion.
Encore en discussion.
Mais c'est surtout, moi je trouve, la question de la précarité des personnes, notamment des travailleuses de rue. Et donc, par rapport au mot d'ordre avec qui est pas mal féministe. Mm-hmm. Nous, on a quelque chose qui, je pense, est en débat, mais qui est en débat en vrai dans toute la France, dans toutes les assos LGBT, tous les collectifs transpédéguines, c'est cette question de la GPA et qui est inscrite dans le mot d'ordre de la Pride de Lyon, qui est d'accord, c'est volontaire. Mm-hmm. Et à un moment donné, est-ce que ça a été adopté au consensus, pourquoi vous avez choisi, et parce que quand il y a nos corps, nos choix, qui est un slogan féministe, et que là, ça correspond, on parle de la situation de mère porteuse, de tout ça correspond que à des personnes qui ont un utérus, et donc comment vous avez choisi de la porter alors que c'est très critiqué en ce moment?
Oui, on est conscient effectivement de l'aspect critique du sujet et on est parfaitement conscient aussi que ça ne fait pas forcément consensus, que ça ne plaît pas forcément à tout le monde que ce soit là. On en est conscient, mais en même temps, à un moment, c'est aussi une façon de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant ce débat a lieu, mais il a lieu en interne. Il a lieu, comme tu l'as dit, à l'intérieur de certaines structures. Il a lieu, il n'a pas forcément lieu de façon ouverte. De façon claire, nette et précise. Et nous, on a voulu mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière en disant, puisque des gens en parlent, faisons en sorte qu'on en parle ensemble, tous ensemble. Après, est-ce que nous, on est là pour dire, on veut que le législateur se bouge maintenant? Non, c'est pas ça. On a simplement voulu mettre en avant ce mot d'ordre pour dire, arrêtons un peu de nous voiler la face. C'est quelque chose, la GPA, qui est abordée à plein d'endroits. Est-ce qu'on pourrait pas simplement le ramener sur le public et pas en interne, pas dans des petites structures, de façon enfermée. Et c'était simplement ça, vouloir l'ouvrir, l'amener, ouvrir le débat, que les citoyens entre eux peut-être se questionnent de façon plus claire, plus directe. Mais on va pas demander demain au législateur de légiférer en disant « on veut la GPA maintenant ». C'est pas ça, pas encore ça. On est là pour discuter en fait, on est vraiment là pour discuter.
Mais vous n'avez pas eu peur que ce soit pris comme une réponse à tout ce qui se passe à l'Assemblée en ce... Parce que la GPA et la PMA, ça a quand même été les deux trucs les plus agités par les agités du bocal qui étaient contre l'égalité des droits. Vous n'avez pas eu peur que ce soit perçu comme une réponse et que du coup perçu comme on le veut maintenant dans le terme de slogan, je parle.
On a envisagé la possibilité que des personnes se disent il va y avoir c'est une réponse à la manif pour tous, c'est une réponse à ceux qui nous ont dit qu'on allait forcément la demander à un moment. Non, c'était pas cette volonté là et maintenant quelque part c'est j'ai envie de dire c'est très bien s'il y a certains ça leur donne ça à l'idée, parce que ça veut dire qu'ils ont ouvert l'oreille, peut-être de façon critique, probablement peut-être de façon un peu frontale probablement, mais on a été entendu. Voilà. Le but, c'était ça, être entendu.
Mais pour moi, par rapport à la GPA, j'aurais envie de dire, justement, pour mettre en lien les questions LGBT et les questions féministes, c'est de dire comment on ferait plus un travail autour, justement, de l'adoption, la déculpabilisation des femmes pour donner sous X, etc. Et à un moment donné, s'il y a une déculpabilisation très forte, avec notamment des structures telles que le planning familial, etc., un travail autour de ça, ça répond pas directement à la question de la GPA, mais ça permet d'ouvrir considérablement, on va dire, les esprits sur l'ensemble de la population.
Je suis
changer la condition des femmes aussi en France.
Quelque part, je suis complètement d'accord sur ce que tu es en train de dire. C'est une idée qui n'est pas négative, et bien au contraire, je pense que justement, à vouloir ouvrir le débat, c'est aussi entendre des arguments comme celui que tu viens d'avancer. C'est une idée qui n'a jamais peut-être été entendue, vue, réfléchie. Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Est-ce qu'on peut pas trouver d'autres solutions? Est-ce qu'on n'a pas d'autres possibilités? On le sait. Aujourd'hui, un abandon sous X, c'est que même le père biologique peut même pas récupérer son enfant, ou alors ça prend des années, des décennies. Enfin, voilà, il y a des choses à se questionner sur la méthode, sur la façon dont ça travaille aujourd'hui en France. Et quelque part, c'est parfois en mettant un coup de pied dans une fourmilière qu'on va peut-être dégager d'autres sujets, d'autres questions, d'autres réponses. Et qui sait, peut-être que d'ouvrir justement le débat sur la GPA, toi, t'apportes une autre vision. Est-ce que ça pourrait pas aussi être une forme de réponse? Est-ce que ça pourrait pas abonder, quoi?
Ouais, c'est ça, c'est que je trouve, effectivement, on peut mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais je trouve ça toujours... Moi, je me dis, on aurait pu le faire d'autres manières et que de... Mm-hmm. Et je trouve, à un moment donné, ce qui me pose question, c'est toute la question de l'affiliation et de vouloir absolument donner ses gènes. Mm-hmm. Et que la question de transmettre ses gènes, elle est tellement importante, et que la GPA et la PMA, elles soulèvent ça, en fait.
Oui, oui, oui.
Et que je trouve, des enfants, il y en a plein. Il y en a plein qui ont envie de famille, qui n'ont pas de famille et tout ça. Et que moi, je vois plus un truc de me dire, oui, l'adoption, ça peut être un truc de solution pour des personnes qui ont envie d'enfants, mais pourquoi absolument vouloir transmettre ses gènes, avoir ce truc de la filiation de la famille, là, avec...
Alors, j'entends parfaitement. C'est vrai qu'il y a aussi, un cas. Bah, tu soulèves par exemple la PMA. On va partir sur le postulat de la PMA. En 1994, tout le comité éthique s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut mettre en place ce système d'insémination médicalisée qui permettrait d'avoir une procréation qui rendrait à des personnes impossibilité d'avoir des enfants, on leur permette de le faire tout en ayant une conservation des gènes. Du coup, ça a été une réponse du comité national d'éthique qui a été favorable, qui a ouvert. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui date de 94. On est aujourd'hui en 2014, 20 ans sont passés, il y a peut-être d'autres choses à voir. Est-ce que pour autant, le gouvernement reviendrait sur la PMA dans sa totalité? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il faudrait, si on ne l'ouvre pas à toutes les femmes, c'est-à-dire célibataires ou couples de lesbiennes, est-ce qu'il ne faudrait pas l'enlever à tout le monde aussi au passage, et puis trouver d'autres solutions? Est-ce qu'on doit être seulement sur la transmission génétique? Est-ce qu'on doit être seulement sur donner un patrimoine? C'est couillon, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on doit enlever aux gens aussi, à certaines personnes, peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, la volonté de vouloir être eux-mêmes parents? Parce que c'est un désir qui existe aussi chez des personnes. Donc du coup, ce serait de se questionner comment répondre à tous et à toutes dans les meilleures façons. Et là, ça devient très compliqué, et on se rend compte qu'on va encore faire des clivages, et on se rend compte qu'on va encore enfermer des gens dans des situations, et on se rend compte qu'on va encore limiter les choses. Mais moi... Enfin, je me demande à un moment, est-ce qu'on doit dire à tout le monde, il y a assez d'enfants, adoptés, vous ne pouvez pas en avoir naturellement adoptés. Est-ce qu'on doit leur répondre ça, alors qu'il y a peut-être d'autres solutions qui leur permettraient de transmettre? Je ne sais pas. On doit essayer de répondre au cas par cas, sans être bloquant. Mais est-ce que la France est capable de le faire? Ça, c'est une autre question.
Ouais, mais c'est pas que... peut-être on peut en discuter des heures, mais c'est pas que rassurant quand on voit... la manière de pouvoir choisir le sperme, avec la manière de faire, qui c'est, la taille de la personne.
Oui. Tout l'aspect génétique, en gros, on y met de la génétique derrière. Je veux des yeux bleus, je veux un blond, je veux un machin. Bon, excusez-moi, là, je suis en train de faire un arien, c'est pas cool. je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. En tout cas, moi, il y a une chose qui m'a choquée, parce que ça... C'est par rapport à ça, c'est de voir des personnes qui choisissent génétiquement que le gamin, éventuellement, il puisse avoir un QI d'Einstein, que le gamin puisse être comme ci, puisse être comme ça. Bon, ça va pas. Et j'ai été choquée aussi, en contrepartie, de voir, par exemple, un jour, une émission qui a traité de la GPA, et de voir un couple hétéro qui gagne super bien sa vie. Ils ont des loisirs extraordinaires, madame fait ceci, monsieur fait cela, ils ont une vie sociale énorme, sauf que madame, elle voulait pas que son corps soit saccagé par une grossesse. Ils ont été faire une GPA à l'étranger. Ben ça aussi, ça m'interpelle. Je suis pas d'accord. Personnellement, je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut utiliser ça sous des réponses autres, pas forcément se créer un enfant selon des critères prédisposés. Enfin voilà, moi j'ai eu un petit garçon, je savais pas comment il allait arriver. Bah, quand il est arrivé comme il était, quoi. Voilà, c'est, je l'ai pris comme ça.
Mais c'est sûr que la GPA, elle pose des questions de classe, vraiment.
Bien sûr. Et bien ça, sûr, c'est clairement ça.
Faut les.
Et justement, c'est ça, c'est qu'on veut les soulever aussi, ces questions-là. Voilà.
On va faire une petite pause musicale, on va écouter la chanson Queer Rage de Viscéralement Déviant.
Vous nous avez imposé l'hétérosexualité comme seul modèle de sensibilité, de sensualité et de sexualité. Les garçons aiment les filles aiment les garçons. Votre conception de l'amour s'est limitée à la procréation de chair à canon. Alors que la nôtre appartenait déjà au royaume des désirs, du plaisir, de l'affection et des étoiles. Puis vous n'avez cessé de propager la haine des queers, la haine des différences. Vous nous avez brûlés, enfermés, chassés, déportés, gazés, dénoncés, psychiatrisés, étudiés, ghettoisés, expérimentés, niés. Puis attestés, testés, contestés, détestés. N'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitée, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcapitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres. C'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas. Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables. C'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas.
Sauf si c'est notre choix.
Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables.
Retour à l'antenne donc. Donc on est dans cette émission avec Edwige qui est présidente de la LGP. Mmh. Et donc on fait une, on a beaucoup de questions pour cette interview, donc ça va assez vite. Mais on va encore changer de sujet pour un peu plus parler de la question du modèle familial.
Ouais.
Et que c'est un des trucs qui nous fait poser question à plein de moments en tant que entre guillemets transpédéguine, même si c'est une case, hein. Mmh. Encore une fois une case, mais voilà, c'est ce rapport à lutter vraiment pour les droits au mariage, les droits pour avoir des enfants. Mmh. Et au final, avec ça, est-ce que ça reproduit pas aussi une norme dominante? Mmh. De l'ordre de la représentation, en tout cas du schéma hétérosexuel du couple? Ouais. Avec enfants.
Alors j'entends la question, puis je sais que c'est une question que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder avec des personnes qui aimeraient en fait une refonte carrément hein, du système, c'est-à-dire on est sur un système qui paraît dysfonctionnel, est-ce qu'on pourrait pas revoir, et particulièrement cette institution-là, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu la retravailler, voire même carrément la faire disparaître? Maintenant, moi ce que je vois, c'est qu'il y a, il y a une volonté chez pas mal de personnes LGBT aussi à avoir, à rentrer un peu dans cette norme. Quelque part, il y a aussi ce désir de la part de certains. Après, moi, je me dis que pour modifier les choses, est-ce que parfois on ne peut pas aussi faire en sorte de mettre tout le monde au même plan, et puis après, tous ensemble, travailler à œuvrer sur quelque chose de différent? Je me pose la question, c'est un questionnement, ce n'est pas forcément la bonne solution, mais voilà. En tout cas, je sais qu'il y a quand même eu une volonté de dire qu'à l'heure actuelle, il y a un schéma qui fonctionne, et c'est un schéma de droit, plutôt, pas forcément une représentation hétéronormée, mais plus un schéma de droit qui donnait des droits à une partie de la population et pas à d'autres, et que c'était simplement une volonté, ou en tout cas d'être égaux, après de pouvoir avoir le choix de se marier ou non. Donc on était surtout sur une volonté d'égalité et de permettre à des personnes qui soient lesbiennes, gays, bi, trans, peu importe, de pouvoir dire bah, j'ai le choix de me marier ou non. Voilà, c'était vraiment la volonté des luttes, et puis c'était quelque chose qui était quand même très, très rabâché, très ramené, quoi.
Mais par exemple, ça implique pas forcément de remettre en cause tout ce qu'on peut avoir fait l'an dernier pour le mariage, mais le fait d'associer justement ces droits, enfin même juste si on prend simplement l'enjeu des droits, des droits sociaux, des droits économiques qui sont liés, le fait que tous ces droits ils sont accessibles par un certain type de relation, d'union, ou qui sont transmissibles liés à ces formes d'union-là. Enfin, le premier débat qu'il y avait sur le PAX, ou le avant même le PAC, c'était la possibilité de le faire à deux, mais à trois ou quatre ou cinq. Ou... En fait, c'est les opposants au mariage quand ils disaient que c'est la polygamie. Et
c'était
D'un côté, c'était intéressant. Non, et mais... là, maintenant, c'est forcément par deux avec des enfants. C'est pas un problème pour les gens qui ont envie de ça, mais on n'a pas envie de ça.
Si on n'a pas envie de ça, on peut pas. J'entends parfaitement. Après, c'est sûr que est-ce que la société actuelle qu'on a est prête à le faire ? Je me pose la question. Moi, personnellement, avoir dans mon entourage des personnes qui vivent à 2, 3, 12 ou 25, on fout. C'est grand bien leur face. Si on pouvait justement leur permettre de vivre tranquillement, sans jugement et sans non plus les empêcher d'avancer dans la vie, en leur permettant d'autres choses, moi je serais tout à fait preneuse. Ce que je vois à l'heure actuelle, c'est qu'on a une société qui a pas l'air d'être tout à fait prête à certaines évolutions, et c'est bien dommage. Mais est-ce qu'avec le temps on n'y viendra pas ? Est-ce que justement à force de pousser, on n'a pas parfois ouvert certaines portes dans nos luttes, en tout cas dans les revendications LGBT ? Est-ce que à terme on n'arriverait peut-être pas à ouvrir cette porte-là aussi ? Mais quand ? Je peux pas te dire.
Nous, à la causerie, on vit un peu à trois, donc on a l'habitude. Non, ça c'était pour la blague. Non, ça se passe super bien. C'est nickel. Non, mais ceci dit, moi j'ai l'impression qu'on, enfin, c'est une impression perso, mais je pense, même pas perso, je crois qu'elle est assez partagée, qu'on s'éloigne un peu de quelque chose qui était fondamental dans les années 70-80, notamment avec le phare, qui disait que ce qui en France bloquait pour les transpédéguines, les lesbiennes, les homos, tout ça, c'était beaucoup, et en grande particulier le code de la famille, et que finalement là on a un peu tapé à côté, parce que certes on a eu le mariage,
on a complètement tapé à côté. Mais soyons très clairs, on continue nous aussi justement à dire que là il y a un truc qui va strictement pas. On a le droit, enfin moi demain si je le voulais je pourrais parfaitement me marier. En revanche, la personne avec qui je suis, ou moi, l'une de nous deux aurait un enfant, il faudrait passer par des schémas de situations complètement hallucinantes. On n'aurait même pas le droit à la fiction de parentalité. Donc c'est à un moment, on se dit, on nous a filé un truc bâtard. Et justement, dans le livret de la quinzaine, on a un truc par rapport aux enfants, où on a bien marqué, nos enfants ne sont pas des bâtards. Donc c'est bien pour rappeler que justement, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ait au moins la fiction de parentalité, qu'elle soit hors mariage ou dans le mariage, parce qu'on a une véritable reconnaissance et qu'on a une véritable protection juridique et sociale. Et à l'heure actuelle, tu soulignes bien le truc, on nous a filé un statut bâtard, contre lequel déjà la LGP Lyon, mais pas que, puisqu'on était solidaire du collectif lesbien lyonnais à ce moment-là, s'était soulevé dès 2012 pour dire il faut impérativement la PMA, il faut impérativement la filiation hors mariage et dans le mariage, il faut impérativement voir les coparentalités, les multiparentalités. Donc ça avait été vraiment un appel à la base du collectif lesbien lyonnais qui avait été lancé en octobre 2012, auquel on a été solidaires. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, que derrière, il y a eu l'idée qui a émergé de faire un collectif unitaire pour l'égalité, qui a duré un bon moment et qui certainement se réveillera sur certaines questions. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on a justement souligné le fait qu'on allait se retrouver avec un statut bâtard, celui qu'on a aujourd'hui.
Ouais, parce qu'en plus, on voit notamment en Suède, par exemple, que le fait d'avoir un collectif unitaire, c'est-à-dire pas uniquement transpédéguine, lesbienne, gay, bi, trans, mais un collectif qui était beaucoup plus large, c'est-à-dire qui allait. Qui a pris tous les acteurs qui pouvaient potentiellement être intéressés par la question de la filiation et de la famille, ça a permis de revoir rapidement le code de la famille suédois, parce que justement ça ne donnait pas l'impression que c'était une revendication uniquement portée, comme le diraient nos opposants, par le communautarisme LGBT, mais par l'ensemble de la société.
Nous sommes un gros lobby. Moi ça me fait rire, le mot lobby et communauté, communautarisme, ça me fait rire. Non, mais en tout cas c'est pour ça que justement le collectif unitaire pour l'égalité, si vous aviez regardé à l'époque comment il s'était construit, je pense que ça vous a pas échappé. On avait autant des associations généralistes de défense de la famille, on avait autant des associations généralistes de défense des droits humains et fondamentaux humains. On avait aussi des partis politiques qui étaient présents, il y avait des syndicats qui étaient présents. Il y avait vraiment tout un mouvement avec une quarantaine de signataires et qui n'étaient pas des coquilles vides, contrairement à la Manif pour tous, pour ne pas les citer. Voilà, donc c'était vraiment une vraie volonté de bouger de façon commune, tous et tous ensemble, autour d'un thème très cher qui était les libertés fondamentales humaines et faire en sorte qu'il y ait des droits qui soient les mêmes pour tous et pour toutes et qu'on n'ait pas des clivages. Et en fait, finalement, on avait quand même soulevé le risque de clivage. Ça a commencé dès le début en 2012. On a signalé que si ça s'orientait comme ça s'est parti d'ailleurs, bah on allait avoir un statut bâtard et c'est le cas, quoi. Et on continue à le dire. Et on est chacun dans nos structures, mais ensemble à le répéter quand même.
Voilà. Mais comment on va pas créer aussi de la morale aussi entre LGBT et transpédéguine? Je veux dire, comme ce modèle-là, ce schéma-là dominant, il est pris et accepté par un certain nombre. Comment ça va faire que une communauté avant qui était, on va dire, exclue par la société, comment ça va créer aussi encore plus de clivages à l'intérieur de notre communauté entre des personnes, entre guillemets, qui vont devenir et qui sont acceptables par la société, même si il y a la montée de l'extrême droite, etc. C'est pas tout évident, mais et comment une partie va rester, vont rester les freaks, quoi. Et comment on pourrait pas imaginer, parce que là Jean-Yves n'est pas là, mais il écoute et il a préparé l'émission avec nous, il a posé cette question, c'est comment on pourrait pas imaginer des modèles d'intégration qui prennent en compte plus de réalité.
Bah, c'est justement ce que tu dis, prendre en compte plus de réalité. Et c'est le problème du gouvernement aujourd'hui, c'est de la non prise en compte des réalités. On le voit par exemple, je vais repartir sur le fait de coparentalité. Tu as par exemple un choix de coparentalité qui est fait. Qui vont être les parents qui vont être connus? Ça va être forcément les parents biologiques. Et après, à côté, les deux autres, c'est un peu vas-y que je te pousse, quoi. Et c'est pas forcément génial. Donc du coup, ce serait la prise en compte de tous les cas de figure, de tout ce qui existe. Mais le gouvernement n'a pas l'air d'ouvrir les yeux sur la réalité en soi. Et ça, et comment nous, on pourrait travailler et œuvrer dans ce sens-là? C'est peut-être à nous de nous mettre tous et toutes autour d'une table et d'essayer de porter ces questionnements ensemble, peut-être. Moi, c'est ce que je vois.
Ouais, moi j'ai l'impression aussi que un des problèmes c'est de, mais c'est pour ça qu'on est sur Radio Canus, c'est que c'est remettre en question à un moment donné plein des dominations de cette société et qu'on peut pas en remettre en question qu'une partie, et que j'ai l'impression que le système capitaliste en place, le système patriarcal en place, il vient aussi prendre sa part là-dedans, et ce qui fait que c'est aussi compliqué d'avoir que des, je trouve, des revendications sur les droits, parce que du coup, à partir de là, c'est comme si on prenait le train et on acceptait le capitalisme, on acceptait le patriarcat, alors que des gens qui vont lutter pour les droits sont pas forcément là-dedans,
tout à fait.
Mais que ça fait ce pack-là, et c'est pas évident, quoi.
C'est ça, c'est le cas, c'est pas évident.
Émission spéciale. Behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. La marche des fiertés. Mixed in with the piss and beer, our blood stains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
Ah ben on est toujours sur Radio Canu et c'est toujours l'émission commune entre On n'est pas des cadeaux et La Causerie avec Edwige de la LGP qui vient nous présenter un peu tout ce qu'il y a autour de la marche. Et là je l'ai fait très vite parce qu'on a remis les micros et qu'on n'était pas prévenus, ça fait super peur. Voilà.
C'était coupé.
C'était pour que tout le monde comprenne pourquoi c'était un peu speed. Du coup Emma, tu voulais continuer?
Ouais, du coup alors on a encore un autre sujet hein, pour cette émission speed dating, on va dire. Alors attention,
qui voudra coucher avec moi après alors?
On va voir si tu marques les points.
On verra.
Du coup, nous, la question qu'on se posait un peu, c'est au niveau de l'affiliation politique de la LGP, enfin de la marche des fiertés. Mm-hmm. Alors bon, je vois que, enfin, je vais la poser moi comme je le sens.
Ouais.
Dans les bien les deux voire trois dernières LGP, clairement, il y avait en tête de cortège des élus.
Oui.
De divers bords politiques, mais bon, qui étaient quand même très PS front de gauche.
Oui.
Et clairement, en fait, il y a eu un slogan pour 2011 qui était « Je marche ».
« Je vote ».
« Et je vote ».
Oui.
Et du coup, voilà, on se posait un peu la question, nous, de la LGP, on est d'accord que vous êtes censé être apolitique
Non, apartisan, mais apartisan. Politique.
D'accord.
On est fortement déjà, politique et apartisan.
Déjà, je pense que c'était pas clair pour tout le monde. Ouais.
Notre travail à nous, c'est d'être des aiguillons. C'est-à-dire que c'est bien notre travail, c'est d'être positionné sur toute la question de ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau des politiques locales, au niveau des politiques régionales et ainsi de suite, sur les questions qui touchent les personnes LGBT, en tout cas, et LGBTQI, pour ne pas oublier non plus. Et donc en fait, on est fortement politique, on est là pour se mettre en opposition. Par contre, on n'est pas partisan du tout, on nous a très souvent affiliés justement et à tort à certains partis politiques. Non, on n'est pas encarté, on n'est pas là pour être encarté. Puis si on doit affronter de la gauche ou de la droite, on fait ce qu'on a à faire, quoi.
Ouais, enfin, c'est... Je pense qu'on a la même idée.
Vous allez dire que ton prédécesseur avait quand même tout fait pour qu'on vous colle avec un parti politique. Enfin, sans être méchant avec lui, mais il avait quand même affiché clairement ses idées politiques, ses soutiens.
Oui.
Si ce n'est d'ailleurs un certain ostracisme des autres façons de penser qui l'entouraient, quoi. Donc, je veux dire, c'est un peu aussi ça qui a entraîné.
J'entends la remarque. Alors, il y a aussi une chose, c'est que effectivement, du fait d'être responsable associatif. À un moment, il y a un amalgame qui va se créer entre la personne, l'individu et finalement le représentant associatif. Cette année, moi, j'ai longuement hésité avant d'afficher mon soutien à une des candidates au municipal. Une des candidates, j'ai vite fait le tour. Elle est juste dans le premier, là. J'ai mis du temps à le faire parce que justement, je ne voulais pas qu'il y ait cette collusion qui se fasse dans l'esprit des gens entre moi, Edwige, en tant que personne, individu, citoyenne, qui se sent plus proche d'une notion que d'une autre, et Edwige, la présidente de la LGP. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire, j'ai dû sortir à un moment du carcan pour des raisons très précises que je garde maintenant pour moi, mais qui à l'instant était volontaire. C'est que justement à ce moment-là, je ne veux pas les garder pour moi, je vous les donner si vous voulez. À ce moment-là, justement, on avait encore cette collusion qui se faisait dans l'esprit des gens entre PS et LGP. Et pour démontrer qu'effectivement, chaque individu du bureau était complètement un citoyen à part entière avec ses propres idées, moi, je suis sortie du placard en démontrant que je défendais un autre candidat, une autre candidate, et que David pouvait défendre quelqu'un d'autre, et que Olivier défendait quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et ça a été fait exprès de faire exploser ça pour démontrer que, effectivement, non, c'est pas la structure. Il y a des individus aussi derrière qui ont des petites sensibilités politiques. Et voilà, et parfois il y a eu cette collusion. Et je peux comprendre que ça a provoqué à un moment peut-être un problème. Je peux l'entendre. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que ça a toujours été le cas, ça a toujours été comme ça. Après, hélas, voilà, on n'est pas à l'abri de petits ratés comme tout le monde.
Mais après, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a quand même des liens assez structurels entre des groupes de la LGP. Et puis aussi par exemple l'inter-LGBT à Paris ou enfin d'autres, du coup t'es pas responsable de tout.
Non, Lyon c'est déjà pas mal. Alors Lyon et Rhône-Alpes ça me va bien déjà, c'est déjà pas mal. Je galère un peu.
Mais notamment je trouvais l'an dernier pour la campagne, enfin tout ce qui les mobilisations qu'il y a eu autour pour défendre le mariage pour tous.
Oui.
C'était pas forcément toujours très clair entre défendre le mariage pour tous et défendre le gouvernement.
Oui.
Ou le PS. Mmh. Et maintenant que c'est passé et qu'on est bien avancé. Enfin, c'est adopté, c'est pas rien, mais ouais. Pour autant, on n'est pas...
Sur Lyon, encore une fois, je sais pas ce doit venir de notre culture, avec d'un côté des fachos bien résistants dans le fascisme, et puis de l'autre côté des gens plutôt pour la liberté et se battant pour les libertés fondamentales qui sont aussi de gros résistants. Donc du coup, c'est un peu la dichotomie qu'on a chez nous. En tout cas, chez nous, à Lyon, en interne, déjà, la LGP avait suscité de tacler un peu le gouvernement par rapport à ce qui se faisait quand il y avait les débats autour du mariage et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on a, nous, souligné vertement et assez ouvertement le silence qui était plus que pesant du gouvernement face à tout ça et de nous avoir laissé en première ligne. On leur a dit, vous nous avez pris pour de la chair à canon, c'était pas ça. On attendait aussi qu'on soit soutenu et on ne l'a pas été. Et n'attendez pas de nous qu'on vous soutienne quand vous le faites pas avec nous finalement, quoi. Donc on a quand même été sur Lyon, une des villes qui a quand même continué derrière à dire ça ne suffit pas, il faut y aller encore plus loin, à continuer à cette période-là, à dire bah non, il faut aller plus loin, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, vous nous avez annoncé des choses et c'est pas ça qui est en train d'arriver. Et on a été sur Lyon les seuls à le faire, et au niveau national on a plutôt vu des gens radoucir un peu le discours, quoi. Alors que non, nous on a plutôt opté d'être sous le collectif unitaire pour l'égalité à foncer, quoi, à ouvrir les choses.
Et du coup, pas un léger regret pour le slogan de 2011?
Non, du tout. Aucun regret pour le slogan de 2011. Pour nous, il était clair que c'était... Il y avait plusieurs volontés déjà. Premièrement, c'était de se dire, ben voilà, on a des candidats, et des candidats, je ne parlais pas d'un seul, mais des, qui ont des propositions qui vont dans le sens de nos revendications. À vous de savoir lesquelles sont-ils, et à vous de voir avec lequel vous êtes le plus proche. Et d'aller voter, c'est aussi, ben, pour nous, dans notre pensée à nous, après c'est pas la pensée de tout le monde et je le sais, dans notre pensée à nous c'est de dire, ben, ne laisse pas ta voix à quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement l'utiliser pour le FN. Voilà, il y avait cette volonté là. Après je sais que d'autres personnes ne sont pas, ont plutôt l'appel au boycott du vote, j'entends chacun après ses visions. Non, pas de regret, mais après c'est au second tour où on avait ouvertement demander à voter Hollande, mais parce qu'on avait d'un côté entre guillemets la peste et de l'autre le choléra, et tant qu'à faire prenons le typhus.
Ouais, mais sauf que c'est toujours ce même argumentaire et c'est toujours ennuyeux, quoi, parce que quand on voit là les politiques de Valls, de Hérault, de Hollande et de toutes ces cliques,
j'entends,
et sur tous les domaines, je veux dire en termes d'expulsion de personnes.
Oui.
On a des milliers d'exemples.
Ah non, mais on est tout à fait d'accord.
Et donc c'est quand même dur de faire ça. Et donc là, en plus, on est sur Radio Canu. Je pense qu'il y a des choses, et plutôt pas le vote qui est défendu souvent.
Ah oui, j'entends.
Et
ouais,
aussi dans ce truc-là de comment on s'organise autrement aussi, ouais, à un moment donné, et que on montre nos insatisfactions quant à cette société d'une autre manière que par le vote, parce que parce qu'aller voter entre deux partis qui vont rien faire changer, c'est aussi fatigant d'appeler à ça, quoi.
Oui, c'est clairement, enfin j'entends effectivement le propos et l'argument. C'est vrai que nous, comme je disais tout à l'heure, on est quand même une structure fortement politique, apartisane mais politique. Du coup, on est aussi dans le fait de suivre ce système du scrutin, ce système du vote et ce système de d'être enclavé dans la politique d'une certaine façon. On entend aussi que d'autres ne le soient pas. Mais voilà, c'est notre fonctionnement. Après, on a appelé en 2011 à marcher sous le slogan « Je marche, puis après je vote ». C'était un slogan national. En 2012, on a après donné effectivement au deuxième tour une consigne de vote. Aujourd'hui, le gouvernement en place, il y a des erreurs qui sont faites et nous on les souligne et on continue à faire notre travail d'aiguillon. C'est pas parce que on a changé de parti politique à la tête du gouvernement, et encore, si on a vraiment changé de parti politique, voilà, on doit quand même nous faire notre travail d'aiguillon et dire, bah attendez, vous aviez de la politique sociale apparemment, on voit que vous n'avez pas cette politique sociale, et ben non. Non, c'est pas parce que on avait appelé à voter pour vous à un moment qu'on est d'accord avec ce que vous faites aujourd'hui. Donc pas de regret pour le passé, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, il faut agir, on agit aujourd'hui. On agit en temps et en heure, c'est-à-dire au moment où il y a à agir. Et voilà, et c'est ça pour moi d'être cohérent avec le truc, quoi.
Mais ça veut dire, parce que comme on approche de la fin de l'émission, on en vient au dernier thème sur la marche de cette année.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, que cette année, il n'y aura pas, à la fin de la marche, des élus qui vont débouler et se mettre
Il y aura certainement des élus qui viendront, d'autres qui ne viendront peut-être pas. Je ne peux pas te dire, je n'ai pas encore la liste éventuellement des personnes. En tout cas, les élus qui viennent aussi... pour ce que j'en sais, alors maintenant je vais leur donner le bénéfice du doute, enfin, je donne le bénéfice du doute, je vais les croire. Ce sont des personnes qui seraient convaincues, en marchant avec nous, de marcher pour ces revendications-là et pas pour se faire voir. Donc, je vais leur donner le bénéfice du doute. Voilà.
C'est gentil, merci.
Je leur donne le bénéfice du doute. Mais voilà. Donc du coup, moi, je préfère là-dessus me dire qu'éventuellement des personnes qui seraient présentes, certains élus dont on sait qu'ils seront là, d'autres dont je sais qu'ils ne seraient pas là pour des raisons X ou Y, voilà, je vais me dire que c'est parce que c'est avant tout un citoyen qui est d'accord avec ses revendications et qui cherche à les porter. Je laisse le bénéfice du doute à ça. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison?
Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la place laissée. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la LGP, mm-hmm. je trouve, que, enfin, dans la marche des fiertés. J'ai l'impression qu'il y a une place qui est très grande qui est laissée aux élus, mm-hmm. et une place finalement de plus en plus faible qui est laissée aux militants de terrain et aux gens qui chaque jour sont... on va dire, sont les mains dans le cambouis pour faire avancer les choses, pour aider les gens. Et moi, j'ai le souvenir d'un truc qui m'avait halluciné, c'est le discours de Najat Vallaud-Belkacem qui couvrait celui des sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors pardon, mais j'ai plus de respect pour les sœurs que pour Najat Vallaud-Belkacem. Et j'avais trouvé ça, mais franchement, alors je le dis comme je le pense, c'est un peu provoque, mais assez dégueulasse, parce que je trouvais que voilà, il y avait un côté assez récup. Et que du coup... Je trouve que là, il y a de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une grande place laissée aux légitimes, c'est-à-dire mm-hmm. à ceux qui sont passés par les urnes, machin, et de moins en moins à ceux qui, sont sur le terrain, quoi.
Alors, petit retour sur ce petit moment-là, plus un souci d'organisation qu'autre chose. La réalité, c'est ce qui s'est passé. En réalité, ce qu'il y avait, c'est que dans un premier temps, il y avait deux discours qui allaient avoir lieu, et ensuite, l'attente de l'envoi par les sœurs de la bénédiction pour lancer la marche. Or, il y a eu une incompréhension quand on était sur le podium à ce moment-là, c'était pas le podium, mais sur le bus sur lequel on se trouvait, quand on a fait le discours, il y a eu un moment où il y a eu une incompréhension entre les personnes. Du coup, les sœurs sont redescendues. Quand moi, j'ai voulu passer la sucette aux frangines, elles n'étaient plus là. J'ai dit « Qu'est-ce qui m'arrive ? Où qu'est-ce qu'elles sont ?» Et on n'avait plus le temps derrière de pouvoir les rattraper et de faire le truc. Donc il y a eu ce couac, qui est plus un couac sur l'instant d'organisation que de volonté de lâcher la parole à... Voilà, donc au moins que ce soit... Voilà, au moins que... Parce que moi, je me suis retrouvée avec la sucette dans les mains à dire « Ils sont passés où ?» où qu'elles sont? je les avais fait monter, je comprends pas. Et donc voilà, c'est plus un souci à l'instant T, au moment des discours où il y a eu une incompréhension qui s'est faite et voilà, tout simplement.
Ok. Mais ça ne répond pas à la place que...
Alors la place avait été tout simplement que moi à ce moment-là j'avais sollicité la présence de Najat Vallaud-Belkacem parce que justement il venait y avoir un changement de gouvernement. On était entre les deux tours des législatives, donc on allait en voir en plus de nouveaux députés et ainsi de suite. Et donc moi je voulais quand même que le gouvernement vienne réitérer ses engagements de pied ferme. Voilà. On a eu l'avantage que effectivement Najat Vallaud-Belkacem vienne. Moi, je me suis amusée en tant que militante à balancer mon discours sans me démonter. Et pourtant, je tapais pas mal sur le gouvernement. Et puis après, elle a eu à répondre. C'était surtout la volonté de dire, maintenant, est-ce qu'on peut se réengager fermement, clairement, directement ici? C'était une volonté à ce moment-là de le faire sous cette forme-ci. Et voilà, ça s'est présenté comme ça. Moi, j'ai fait mon boulot de mon côté. Elle a répondu. Un an, deux ans plus tard, on peut lui dire, c'est bien, mais ce jour-là, t'as répondu telle chose, on attend encore, quoi.
Mais la forme de la Pride telle qu'elle a lieu ces dernières années, mm-hmm. je veux dire, elle n'est pas exactement la même qu'en 96 quand il y a eu les premières et où elles étaient vraiment plus militantes et peut-être mm-hmm. avec moins de moyens mais plus militantes. Mm-hmm. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi, par rapport au cortège, des formes de dérive un peu libérale mm-hmm. dans le truc avec énormément de chars commerciaux. Il y a même l'armée qui... Moi, l'armée qui fait sa pub et la police. Il y a à un moment donné toutes sortes d'assauts et du coup ça c'est plutôt chouette, toutes les assauts qui sont là, qui défilent à ces moments-là, etc. Oui. Les élus devant. En fait, moi je m'y retrouve pas du tout dans cette marche et c'est malheureux.
J'entends. Alors, le fait de la marche aussi, à la base, c'est que c'est quand même une marche... ces premiers termes, c'était une marche des diversités. C'était aussi une possibilité d'avoir multiples populations. Il y a aussi le fait que, par exemple, tu parles de la police, mais on a FLAG, qui est quand même une association de défense des personnes gays et lesbiennes dans la police et la gendarmerie. c'est pas anodin qu'il marche là aussi au milieu. Pour l'armée, par contre, effectivement, je pense qu'il doit y avoir une raison, ça doit être attaché aussi à Flag. Maintenant, on a aussi le fait que c'est une marche qui est ouverte à toutes et à tous, et qui est pas là pour enfermer, pour ne prendre que toi tu rentres pas, tiens, t'as des baskets, tu viens pas. C'est pas ça la volonté. Après, je peux entendre qu'effectivement, il y a eu la sensation à un moment d'une perte de force revendicative. C'est certainement le cas. Moi, je sais que depuis que je suis arrivée, j'ai plutôt eu l'impression qu'on est reparti un peu dans l'autre sens, au niveau des choses. Après, je ferme pas non plus la porte dans le cortège à ceux et celles qui ont envie de venir. Moi, les gens qui ont envie de venir, ils savent pourquoi ils viennent. C'est-à-dire que là, il y a un mot d'ordre, vous le connaissez, vous savez pourquoi vous venez. Donc chacun un peu...
Vas-y.
Non, c'était juste par rapport à... Je voulais revenir, moi, sur la flag, sur un peu des trucs de contradiction entre des mots d'ordre et réponses de policiers, même s'ils sont gays et lesbiens, ils sont flics. Et justement, sur un moment donné, un mot d'ordre qui était autour des demandeurs d'asile LGBT, ou en tout cas...
2010.
Et que moi, ça me pose quand même question aussi, ces sortes de contradictions entre, à un moment donné, des personnes, certes, elles ont toutes les orientations sexuelles qu'elles veulent, je veux dire, mais à un moment donné, elles sont dans leur boulot en train d'expulser des personnes concrètement et elles viennent marcher.
Oui, ça je peux comprendre ta remarque. Est-ce que leurs valeurs personnelles correspondent à leur travail? Ça, c'est la question que je me pose. Comment est-ce qu'on peut arriver le matin et poser ses valeurs personnelles dans le casier pour agir autrement? Je m'interroge aussi. Mais est-ce que je peux dire à une personne qui potentiellement partage cette idée à titre personnel, est-ce que je peux lui dire, vu que tu fais un métier de merde, s'il te plaît, sors de mon cortège? Est-ce que je suis en droit et en mesure de le faire?
Mais elle est justement pas, en tant que personne à ce moment-là, elle représente une association, elle représente un syndicat. Je veux dire, à ce moment-là, c'était pas des personnes, c'était bien la flag en tant que telle qui était représentée dans le cortège.
Oui, mais flag reste une association qui lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais qui a une problématique centrale qui est de permettre aux personnes qui sont dans la police ou dans la gendarmerie de ne pas être discriminées au sein de la police et de la gendarmerie. Mais à côté de ça, c'est une association qui se porte aussi aux côtés des luttes qu'on peut avoir, toutes les autres marches qui ont pu avoir lieu, les marches pour l'égalité, l'ouverture du mariage, le droit à l'adoption et ainsi de suite. Donc ça reste une structure qui, à la base, est quand même là pour lutter contre des discriminations. Après, je peux entendre qu'effectivement, elle émerge d'un milieu qui... peu embêté, mais bon, les gens qui la composent, eux, ont des valeurs personnelles, et c'est peut-être ces valeurs personnelles-là qu'ils ont mis dedans, de ce que moi j'en ai vu en tout cas.
Et moi, par contre, j'ai une question qui va pas dans, enfin qui va en plus de ça. C'est en termes de représentativité. Est-ce que t'as pas peur un peu que le côté ultra commercial qui est en train de s'installer, et notamment des chars avec que des mecs bodybuildés,
huilés,
très très épilés, tout ça, donne. Alors, moi, je suis pas du tout dans le fantasme des abrutis qui disent oui, ça donne une très mauvaise image. C'est pas le problème. Ouais. C'est plutôt en tant que gay, lesbienne, bi, trans, transpédéguine, quand tu arrives dans la Pride, est-ce que t'as pas peur qu'il y ait une espèce d'effet de je ressens pas ce qu'on attend de moi, tu vois ce que je veux dire, et que cette mise en avant perpétuelle et qui est de plus en plus pressante, moi j'ai la crainte qu'elle soit contre-productive finalement.
Le problème, c'est que nous on n'est pas là sur chacun des chars à dire tu mets ça, tu mets ci, tu fais ça, t'es machin. C'est les gens arrivent avec leurs chars tels qu'ils sont faits. Après, je peux entendre effectivement cette remarque et cette question. Je réponds pas à certains critères de beauté, je réponds pas à certains critères physiques ou autres. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je voilà. Là, c'est encore une autre problématique qui se pose. Comment nous, en interne, dans la marche, on pourrait lutter contre ça? Je sais pas, je saurais pas te dire. Mais en tout cas, voilà, c'est. Tu as tout un cortège après derrière, tout un nombre de personnes autour, où tu as des dizaines de milliers de personnes qui arrivent percées, tatouées, en fauteuil roulant, ou aveugles, ou sourds. Et finalement, tu as quand même toute la population qui est là, qui te montre aussi qu'il y a une diversité. Et c'est vrai que ce qui se passe sur les chars après, comment nous on pourrait le gérer alors qu'on n'en est pas propriétaire ou autre, ça c'est une autre problématique. Mais moi, ce que je regarde surtout, c'est pas forcément la représentation un peu caricaturale et superficielle qu'il y a sur les chars. Moi, je préfère regarder les gens du cortège parce que eux, au moins, je les trouve beaux.
Bah, l'émission touche à sa fin, donc on va dire les mots de la fin. Merci d'être venu.
Merci à vous de m'avoir invité, surtout.
Donc, on rappelle, la marche, c'est le 14 juin.
14 juin.
À 14h.
Ouais.
Départ dans le 6e.
Tout à fait.
Et il va y avoir aussi toute la quinzaine des fiertés, tu veux en dire deux mots?
Oui, on commence vendredi 6 juin avec le buffet inaugural qui aura lieu à la mairie du 1er arrondissement. Et on clôturera avec la fête de la musique le 21 juin. Voilà. Donc, et entre-temps, il y a la nuit du cinéma LGBT, il y a des expositions, il y a des soirées festives, il y a des débats. Il y a toute une chose qui est inscrite. On peut retrouver toutes ces informations éventuellement sur Internet ou dans le livret. Donc il suffit de chercher Lesbian and Gay Pride de Lyon, on retrouve toutes les informations sur Internet.
Et donc, comme on est pressé, je vais, sans le jingle, annoncer les deux infos d'agenda que j'ai. Et puis, si vous en avez d'autres, vous compléterez. En tout cas, le collectif Lesbien Lonnais
invite... Day Kit, le 19 juin, ouais.
Voilà, invite le 19 juin et voilà, aussi lance un concours d'affiches.
Oui.
Donc,
ouais.
L'affiche sélectionnée servira à l'annonce de leur prochaine permanence.
Ouais.
Et si possible, à faire transparaître les valeurs du collectif,
ouais,
c'est-à-dire la visibilité lesbienne et bisexuelle, la lutte contre les discriminations lesbophobes et discrimination liée à l'orientation et à l'identité de genre.
Oui, et elles ont une autre date que je vous invite à aller découvrir aussi sur notre site internet, qui est autour d'une rencontre par rapport à Pinard-Sélec et toutes les luttes de Pinard-Sélec. Donc, et puis à la situation de Pinard-Sélec aussi. Donc il y a une autre date. Voilà, tout à fait. Et donc justement, elles ont une autre date qu'on retrouve sur l'agenda, mais sur l'agenda du site internet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir.
Je crois le 11 juin.
Oui, je crois que c'est le 11 juin. J'étais plus très sûre, je ne savais plus si c'était le 10 ou le 11, je n'ai pas voulu m'avancer. Mais effectivement, on a transmis aussi, on a rajouté cette date.
Donc ça, c'est à Terre des Livres, le 11 juin. Et le 19, c'est au DIY, c'est 14 rue de Bonald. Et Terre des Livres, c'est rue de Marseille, je me rappelle
86.
Jamais. 86. Et la dernière info, c'est à Grenoble, c'est le 31 mai, c'est ce samedi. Il y a une soirée d'Ali Dark autour des luttes féministes à Barcelone. Donc ça sera des repas vegan qui auront lieu, suivis de projections de courts-métrages et d'une boum pour finir. Tout ça en non-mixité meuf, gwyn, trans.
C'était la causerie des cadeaux. Merci de votre écoute.